これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
Le Gai Savoir.
Une émission de Raphaël Antoven avec Paola Reymann.
À la technique, Jean-Michel Coqui.
Et à la réalisation, François Connac. Il y a plus de liberté dans le fait de se savoir agi que dans le sentiment d'être l'origine de ses actes. Plus de force dans l'acceptation de ses faiblesses que dans leur déni. Plus de sagesse, en un mot, dans la reconnaissance de ses vices que dans la guerre civile que l'esprit déclare au corps qu'il abrite. Suite, ce dimanche, d'une émission, une série de deux émissions, sur la troisième partie de l'éthique de Spinoza, en vérité sur l'avant-propos, tellement dense et tellement clair. De cette troisième partie, nous avons mis une heure dimanche dernier à effleurer les cinq premières lignes du texte. Qui sait, peut-être la conversation d'aujourd'hui nous conduira-t-elle un peu plus loin ?
Bonjour Raphaël.
Bonjour Paola.
Car il croit que l'homme perturbe l'ordre de la nature plutôt qu'il ne le suit, qu'il a sur ses actions une absolue puissance et n'est déterminé par ailleurs que par soi-même.
C'est un début un peu in medias res qui répond à une fin abrupte de la semaine dernière.
C'est vrai, c'était un peu abrupt la semaine dernière. On s'était arrêté au milieu d'une phrase qui elle-même se trouvait au milieu du début de l'avant-propos, pourtant apparemment limpide, de la troisième partie de l'éthique. Cela dit, in medias res, c'est quand même une bonne façon de commencer à tous égards pour Spinoza. C'est un livre où on n'est jamais perdu. On n'est jamais dépaysé. Quand on est familier, au début, on est perdu partout. Mais une fois qu'on a compris, ou qu'on a le sentiment d'avoir compris un tout petit peu, d'abord son lexique, et puis son intention, et puis, je sais pas, il y a un effet de familiarité qui s'opère à mesure qu'on lit ce livre, qui fait qu'on n'est jamais perdu et qu'on peut effectivement commencer in medias res, comme Deleuze le souhaitait. Il voulait qu'on commençât la lecture ou l'analyse de l'éthique par le bordel, le chaos des passions, le chaos géométrique des passions que Spinoza décrit donc dans la troisième partie, ouais.
D'accord, alors si il m'en souvient bien, je ne sais pas si ce que je dis est français.
S'il vous en souvient.
La semaine dernière, parce
il
que
vous,
c'est...
Il vous en souvient.
Il est pas aisé non plus pour nous de recommencer comme ça une semaine après, au milieu de cet avant-propos, hein,
oui.
Au début de cet avant-propos. On avait expliqué le premier terme, en fait, de cette phrase. Donc, le fait que l'homme... Ces gens qui pensent que l'homme trouble... l'ordre de la nature plutôt qu'il ne le suit, et on avait parlé des miracles.
Voilà, il faut rappeler très rapidement pour nos auditeurs, qui n'ont peut-être pas en tête l'émission de la semaine dernière, comme nous d'ailleurs, qu'on croit en général que l'homme est un élément perturbateur dans la logique de la nature. Et d'ailleurs, c'est parce que l'homme lui-même s'est vécu comme un élément perturbateur dans la logique de la nature que l'on peut aujourd'hui entendre un discours qui voudrait que, aux changements qui ont pris plusieurs millions d'années, aux changements géologiques, au temps géologique de plusieurs millions d'années, a succédé le temps humain qui veut qu'en 50 ans, la Terre ait plus changé qu'en 75 millions d'années, par exemple, par l'interruption ou l'intervention de l'homme et la façon qu'a eu l'homme de bouleverser l'ordre de la nature en se prenant justement lui-même pour l'origine de ses actes et pour une sorte de brèche dans le déterminisme intégral de la nature. Donc Spinoza commence en disant, voilà, il croit que l'homme trouble l'ordre de la nature, le perturbe, plutôt qu'il ne le suit. Et l'exemple qu'il prend, c'est les miracles. On croit qu'un miracle, c'est un truc qui n'est pas normal, qui n'est pas naturel. On croit que le miracle, c'est de ressusciter une fois qu'on a été crucifié. On croit que le miracle, c'est de marcher sur l'eau. On croit que le miracle, c'est de mettre quelque chose sur un fleuve et de voir l'objet qu'on a posé sur le fleuve remonter le lit du fleuve. Voilà. On croit que le miracle, c'est ce qui déroge à l'ordre naturel. Or, à ce compte-là, il faudrait que Dieu se contredise lui-même, puisque Dieu, ce sont les lois de la nature aux yeux de Spinoza. Donc, il y a plus de miracles dans le fait que les choses soient ce qu'elles sont que dans le moment tout à fait improbable, hypothétique et en vérité qui n'arrive jamais, par définition. Où les lois de la nature sont contrebalancées par une sorte d'injonction, un caprice divin. Tiens, aujourd'hui, j'ai pas envie. Aujourd'hui, on va faire remonter le cours d'un fleuve à l'objet qu'on a jeté dessus. Non, ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Dieu ne fait pas d'exception, si vous voulez, dans le vaste déterminisme auquel il s'identifie chez Spinoza. Donc, l'idée même de miracle comme ce qui déroge à l'ordre de la nature est une folie. Et alors, cette première position, croire que l'homme trouble l'ordre de la nature plutôt qu'il ne le suit, est accolé dans la phrase, et c'est ça qui est important, à une deuxième proposition qui est au fond, l'idée que l'homme a, la phrase exacte, c'est...
Qu'il a sur ses propres actions un pouvoir absolu.
Voilà, qu'il a sur ses propres actions un pouvoir absolu. Or, c'est une référence directe au traité des passions de l'âme de Descartes, on en a déjà parlé, dans lequel Descartes dit, je le cite, « Il n'est pas d'âme qui, bien conduite, ne puisse acquérir un pouvoir absolu sur ses passions. » Ce que fait Spinoza ici, c'est qu'il s'oppose à l'idée d'une guerre civile entre l'âme et le corps. Guerre civile au terme de laquelle l'âme finirait par soumettre le corps. Et il est vrai que la grandeur de Descartes ne tient pas tant aux solutions qu'il propose, qui pour la plupart ne tiennent pas la route. Dixit, un cartésien de stricte obédience. Je veux dire, Descartes est grand par les erreurs qu'il laisse à sa postérité le soin de résoudre. Et parmi les contradictions ou les idées obscures, délibérément obscures ou malheureusement obscures que Descartes a léguées à sa postérité, il y a l'idée que le corps et l'âme sont hétérogènes en nature, en substance. Ce n'est pas la même substance. Et c'est tellement facile à comprendre. Parce que c'est facile à comprendre parce que c'est comme ça qu'on pense. C'est la forme la plus naturelle de nos pensées. Et Descartes est, à mon sens en tout cas, majeur pour cette raison-là. Descartes, c'est l'interprète de... Je vais faire hurler les cartésiens, c'est pas grave. Je crois que Descartes est le meilleur représentant de la façon dont on pense quand on ne pense pas ce qu'on pense. C'est-à-dire quand on se laisse aller. Quand on se laisse aller, qu'est-ce qu'on pense ? On pense qu'on a un corps qui est habité par un esprit. Voilà.
Mais est-ce que c'est pas une sorte d'illusion rétrospective ? Est-ce que c'est pas parce que Descartes l'a dit une fois et si clairement que...
Moi, j'ai tendance à penser que Descartes n'a fait en le disant que formaliser ce qui relevait non pas d'une idée claire et distincte, mais au contraire d'un sentiment qui lui semblait si prégnant qu'il ne pouvait pas le contredire. Que cette différence que Descartes établit, cette différence de nature entre le corps et l'esprit, qui débouche sur des tas de contradictions, relève davantage chez lui d'un sentiment devant lequel il s'incline, auquel il cède. Pourquoi c'est contradictoire ? Juste me rappeler très rapidement. C'est contradictoire parce que si vous pensez que le corps et l'esprit doivent agir l'un sur l'autre, vous êtes obligé de les séparer. C'est normal, il faut être à distance pour agir l'un sur l'autre. Vous ne pouvez pas agir sur vous-même, si vous voulez. Ou alors vous êtes dans la position, vous savez, du type qui s'embrasse lui-même et dont on voit les mains qui recouvrent son dos, comme si c'était les mains d'un autre, ou du serpent qui se mord la queue. Il faut qu'il y ait deux endroits. Il faut qu'il y ait deux lieux, il faut qu'il y ait deux instances, en fait, pour qu'elles agissent l'une sur l'autre. Alors, ces deux instances sont liées chez Descartes, naturellement, mais elles sont différentes en nature. Et cette différence, qui est la condition de possibilité de l'action de l'esprit sur le corps ou du corps sur l'esprit, est également la condition d'impossibilité d'une action de l'un sur l'autre. Car, étant différents en nature, ils ne peuvent pas agir l'un sur l'autre. Et c'est ça le paradoxe. C'est que la condition de possibilité d'une action de l'esprit sur le corps ou du corps sur l'esprit est également ce qui rend cette action impossible, dans la mesure où ils sont différents en nature.
Mais pourtant, pour essayer de...
À la façon, pardonnez-moi juste pour finir, dont l'immatériel n'agit pas sur le matériel.
Mais pour essayer de résoudre cette contradiction, Descartes a recours à la glande pinéelle. Puisqu'il essaye d'inventer un point, enfin un point de tangence entre l'âme et le corps.
Tout à fait. Il appelle ça la glande pinéale, qui en fait correspond, mon inculture en matière de cerveau ou d'anatomie du cerveau est totale, mais je crois qu'il parle de l'épiphyse. L'épiphyse qui synthétise la lumière, qui produit ou sécrète la mélatonine, je ne sais pas, là pour le coup, je ne veux pas m'aventurer sur ce terrain-là. Mais ça correspond à une réalité physiologique, anatomique. Sauf que le sens que Descartes donne à cette petite glande qui se trouve logée en notre cerveau est une chose tout à fait... Enfin, c'est baroque, quoi. C'est marrant, c'est la cour des miracles.
Suspendu au milieu du cerveau.
Oui, alors écoutez, lisons le traité des passions de l'âme.
Article 31. Qu'il y a une petite glande dans le cerveau en laquelle l'âme exerce ses fonctions plus particulièrement que dans les autres parties. Il est besoin aussi de savoir que, bien que l'âme soit jointe à tout le corps, il y a néanmoins en lui quelques parties en laquelle elle exerce ses fonctions plus particulièrement qu'en toutes les autres. Et on croit communément que cette partie est le cerveau, ou peut-être le cœur. Le cerveau à cause que c'est à lui que se rapportent les organes des sens. Et le cœur, à cause que c'est comme en lui qu'on sent les passions. Mais, en examinant la chose avec soin, il me semble avoir évidemment reconnu que la partie du corps en laquelle l'âme exerce immédiatement ses fonctions n'est nullement le cœur, ni aussi tout le cerveau, mais seulement la plus intérieure de ses parties, qui est une certaine glande fort petite, située dans le milieu de sa substance, est tellement suspendue au-dessus du conduit par lequel les esprits de ses cavités antérieures ont communication avec ceux de la postérieure, que les moindres mouvements qui sont en elle peuvent beaucoup pour changer le cours de ses esprits, et réciproquement, que les moindres changements qui arrivent au cours des esprits peuvent beaucoup pour changer les mouvements de cette glande.
Alléluia ! Alléluia, on est tiré d'affaire. C'est-à-dire qu'il y a le corps et il y a l'esprit, on ne comprend pas comment ils agissent l'un sur l'autre, et puis soudain arrive...
La petite glande
pinéale. Ad hoc, la petite glande pinéale, opportunément composée, une sorte de matière spirituelle ou de spiritualité matérielle, d'intercesseur, de carrefour, de péage, je ne sais pas, de checkpoint Charlie entre le corps et l'esprit, et qui permet le passage de l'un à l'autre, la mutation d'une substance en une autre ou l'action d'une substance sur une autre. Tout ça est totalement fumeux. Je ne veux pas qu'on me pardonne de le dire de cette façon-là. Ça m'a toujours semblé fumeux. C'est surtout c'est une création requise par les besoins. Ça, c'est, il y aurait beaucoup à dire sur les raisons pour lesquelles, même quand on étudie Descartes beaucoup, certains n'arrivent pas à être cartésiens. Et l'une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à être cartésien, en tout cas en ce qui me concerne, c'est que j'ai toujours eu le sentiment que Descartes invoquait des solutions rétroactives à l'appui des problèmes qu'il posait, qu'il avait l'honnêteté de poser. Il commence par dire qu'il révoque en doute tout ce qui n'est pas absolument certain, mais il termine les méditations métaphysiques en concluant à l'existence infiniment probable, mais pas absolument certaine, des choses matérielles. Il commence par dire qu'on ne peut pas combler le hiatus qui sépare une conscience du monde, puisque la conscience, pour se saisir elle-même, a fait sécession, cette abstraite du monde. Et puis du coup, arrive soudain comme une clé de voûte la garantie divine, enfin il ne l'appelle pas comme ça, mais Dieu, qui, par l'intercession de qui et par la bonté de qui les idées qui sont vraies en moi correspondent à une réalité, à une vérité en dehors de moi. Et là, il commence par poser la difficulté d'une interaction entre le corps et l'esprit pour ensuite sortir de son chapeau comme un lapin la glande pinéale qui viendrait réconcilier tout le monde et les rendre compatibles.
Mais Spinoza lui reproche cela d'ailleurs, pas dans la partie directement qu'on étudie, c'est-à-dire pas dans l'avant-propos de la troisième partie, mais il mentionne la glande pinéale dans l'avant-propos de la cinquième partie.
Tout à fait, Paola. C'est dans l'avant-propos de la cinquième partie auquel il faut faire référence ici pour prendre la mesure, au fond, de l'abîme qui sépare Descartes de Spinoza. Alors, voici ce que Spinoza répond à Descartes dans l'avant-propos de la cinquième partie.
Cette opinion est très en faveur chez Descartes, car il pense que l'âme ou l'esprit est unie principalement à certaines parties du cerveau, à savoir la glande dite pinéale, au moyen de laquelle l'esprit sent tous les mouvements qui se trouvent excités dans le corps, ainsi que les objets extérieurs. Et que l'esprit, par cela seul qu'il veut, peut mouvoir diversement. Il pense que cette glande est tellement suspendue au milieu du cerveau que le moindre mouvement des esprits animaux peut la mouvoir. Ensuite, il pense que cette glande est suspendue au milieu du cerveau d'autant de diverses manières qu'il y a de diverses manières pour les esprits animaux de venir la frapper. Enfin, il pense que, encore que chaque mouvement de cette glande semble avoir été joint par nature à chacune de nos pensées dès le commencement de notre vie, on les peut toutefois joindre à d'autres par habitude, ce qu'il s'efforce de prouver à l'article 50, page 1 des Passions de l'âme. D'où il conclut que nulle âme n'est si faible qu'elle ne puisse, bien dirigée, acquérir un pouvoir absolu sur ses passions. Telle est l'avis de cet homme, clarissime, pour autant que je le conjecture de ses propos, et j'eusse eu peine à croire qu'il eût été soutenu par un si grand homme s'il n'avait été si aigu. Et je ne puis assez m'étonner, certainement, de voir un philosophe, après avoir fermement décidé de ne rien déduire que de principes connus par soi et de ne rien affirmer qu'il ne perçut clairement et distinctement, et après avoir si souvent reproché aux scolastiques de vouloir expliquer les choses obscures par des qualités occultes, adopter une hypothèse plus occulte que toute qualité occulte.
Alors, il faut faire droit, peu importe qu'on soit cartésien ou spinoziste. Il faut juste faire droit à cet éclat de rire. Au fait que Spinoza se moque de Descartes. Il faut faire droit à cette dérision. Et ce dialogue de Spinoza et de Descartes, entre Spinoza et Descartes, est un dialogue à l'intérieur duquel il y a du rire. Ça fait marrer Spinoza. Ça le fait marrer, cette idée de glande pinéale. Il trouve ça confus, il trouve ça obscur, il trouve ça bizarre. Il ne comprend pas comment on a pu se vendre un produit si frelaté, au fond, dans l'histoire des idées. Et ça le fait bien rigoler. Comment dire ? C'est pas parce qu'il est rare de rire dans l'histoire des idées qu'il faut s'attarder sur ce rire. C'est parce que le rire est un renseignement sur le fait qu'aucun philosophe ne doit, ne peut, ne saurait se prendre au sérieux sans se tourner aussitôt en dérision. Le premier devoir d'une pensée, si elle est un peu sérieuse, c'est de ne pas se prendre au sérieux et de rire d'elle-même. Et les successeurs de Spinoza ne s'en sont pas privés, qui se sont moqués et de son style abscon et de sa façon géométrique de présenter les choses. Il faut se moquer des penseurs. Le débat sur glande pinéale, pas glande pinéale, est un débat trop complexe, si vous voulez, pour l'avoir ici. Il faudrait qu'on revisite toute la deuxième partie de l'éthique. Il faudrait que, bon, il y a trop de travail. Mais retenons quand même l'éclat de rire, voilà.
Peut-être quand même, s'il faut passer par la deuxième partie de l'éthique, peut-être au moins en faire un abrégé, expliquer un petit peu.
Un abrégé de la deuxième partie de l'éthique, c'est compliqué.
De quoi il en retourne déjà ?
Quelques sensations sur cette deuxième partie de l'éthique. La deuxième partie de l'éthique, qui donc précède le texte qu'on étudie là, porte sur la nature et l'origine de l'esprit, ce que Spinoza appelle la nature et l'origine de l'esprit. Et c'est dans cette deuxième partie qu'on trouve des choses tout à fait étonnantes. Par exemple, c'est au début de la deuxième partie de l'éthique qu'il trouve tout ça de mémoire. Il dit « Par réalité et perfection, j'entends la même chose. » C'est une phrase infiniment sujette à caution. Comment ce type-là peut-il dire que par réalité et perfection, il entend la même chose ? C'est un des malentendus sur Spinoza. Or, quand il dit ça, il ne veut pas dire que le monde est très bien, ou que le monde est bon, ou que le monde est généreux, ou que le monde est merveilleux. C'est pas Louis Armstrong, c'est pas lui qui dit « Je vois les petites fleurs et je me dis quel monde merveilleux ». Non ! Perfection n'est pas un jugement de valeur. Perfection signifie achèvement. Par réalité et achèvement, j'entends la même chose. Il faut s'habituer à voir les choses sous l'angle qui est le leur et non pas le nôtre, c'est-à-dire sous l'angle de leur achèvement. Pour vous donner un exemple tout simple, si vous voyez une maison dans une campagne à laquelle il manque un toit, vous direz cette maison est inachevée. Mais elle n'est inachevée que par rapport à votre propre désir, elle n'est inachevée que par rapport à l'idée que vous vous faites de la maison. En soi, quatre murs posés au milieu d'un champ sont parfaitement achevés à l'instant où ils sont tels qu'ils sont.
C'est ainsi que Bergson pourra dire que le néant n'existe pas.
C'est ainsi que Bergson peut dire que le néant n'existe pas. Bergson est l'héritier de Spinoza, en ce sens-là. C'est dans la deuxième partie aussi que Spinoza parle de Dieu comme d'une chose étendue, ce qui est tout à fait révolutionnaire. Et vous imaginez que bien des gens ont voulu lui couvrir la tête d'épines et le crucifier pour avoir dit ça. C'est dans la deuxième partie qu'il dit que l'ordre et l'enchaînement des idées est le même que l'ordre et l'enchaînement des choses. Thèse qu'on a indûment qualifiée de paralléliste, alors que c'est pas du parallélisme, c'est juste une façon de dire que l'attribut étendu et l'attribut pensée sont juste deux modalités de la même substance. Voilà, qu'on envisage selon la pensée ou selon l'étendue. C'est dans ce livre, la deuxième partie de l'éthique, qui est un livre sur l'esprit, que Spinoza fait une typologie du corps. Parce qu'il ne les sépare pas, c'est ça qui est important ici, allez, on va dire ça, c'est ça qui est important. Il fait une typologie du corps. Et ce qui est fort, c'est qu'il mélange tellement le corps et l'esprit, il les mélange tellement, qu'il en vient, à s'attarder sur le fait que on a beau savoir que le soleil n'est pas à 200 pieds de nous, Spinoza fait droit au fait qu'on continue de le voir à 200 pieds de nous. En d'autres termes, Spinoza considère que, contrairement à ce que pense Descartes, qui, voyez, quand vous plongez un bâton dans un verre d'eau, l'indice de réfraction fait que le bâton est courbé ou plié. Et Descartes dit « ma raison le redresse aussitôt ». Spinoza dit « la raison redresse rien du tout ». La sensibilité continue de voir les choses comme on les perçoit, premier genre de connaissance. C'est dans la deuxième partie que Spinoza distingue les premiers, deuxième et troisième genres de connaissance. C'est-à-dire une connaissance mutilée, partielle, premier genre, sensible, celle qui vous dit la Terre est plate, et puis deuxième, troisième genre de connaissances qui sont des connaissances en vérité et dont la distinction se fait sur un mode qui est celui de la rapidité. Mais Spinoza dit que le premier genre de connaissances, c'est dans la deuxième partie qu'il le dit aussi, que le premier genre de connaissances, c'est déjà un début de connaissance. Alors que pour Descartes, il faut révoquer complètement l'erreur. Pour Spinoza, il faut accepter l'erreur. L'erreur est un début de connaissance. Une erreur, c'est une connaissance mutilée. C'est une connaissance partielle. commettre une erreur, c'est entrer dans la connaissance.
Alors qu'on avait vu dans les méditations métaphysiques que Descartes disait, on avait fait ça une de nos premières émissions, disait que l'erreur est un péché.
Alors, vous avez tout à fait raison, c'est dans la quatrième partie, Descartes dit « de là vient que je me trompe et que je pêche ». L'erreur était identifiée à une faute. Et il y avait confusion de l'ordre gnoséologique du savoir avec l'ordre moral. De là vient que je me trompe, atque fallor et peco. De là vient que je me trompe et que je pêche. Et cette association des deux ferait hurler Spinoza, ou marrer Spinoza, qui ne voit pas le rapport entre l'erreur et la faute, ou l'erreur et le péché. L'erreur n'est qu'une connaissance mutilée, incomplète, partielle. Et c'est dans ce livre extraordinaire que Spinoza, la deuxième partie, que Spinoza explique que la volonté ne va pas plus loin que la perception. On ne peut pas vouloir au-delà de ce qu'on perçoit. Oh, et c'est là qu'on lui dit, mais oui, mais si j'imagine un cheval ailé, oui, dit Spinoza, vous imaginez un cheval ailé parce que vous avez perçu les ailes et le cheval et que vous les avez accolés. Mais vous ne voulez pas au-delà de ce que vous percevez. On retrouve cet argument chez Hume, avec la montagne d'or. Hume dit, si vous rêvez d'une montagne en or, c'est que vous connaissez la montagne, vous connaissez le métal. De sorte que rêver de montagne en or, c'est mélanger deux éléments que vous connaissez. Alors la montagne d'or, elle n'existe pas, mais le rêve que vous faites n'est jamais que l'expression palpable de ces perceptions que vous avez déjà eues. Donc, enfin, on ne va pas rester indéfiniment sur le livre 2, mais c'est dans le livre 2 que Spinoza montre que le corps et l'esprit ne sont pas différents en nature. Ce ne sont que des modalités d'une nature qui en elle-même est homogène et unique. De sorte que là où chacun, depuis Platon, présente comme une guerre civile l'affrontement du corps et de l'esprit, Spinoza intervient à cet endroit-là pour présenter, pour dire qu'au fond, s'il y a une guerre civile entre les deux, alors on est forcément le perdant quelque part. C'est une guerre qui se fait forcément aux dépens de celui qui en est le théâtre et qui vit comme un affrontement, ce qui n'est en vérité qu'une partie de lui-même, qui se regarde elle-même. C'est le serpent qui se mord la queue. Concevoir comme une guerre civile entre le corps et l'esprit la condition humaine, c'est être dans la situation du serpent qui se mord la queue. C'est opposer deux parties de soi qui sont tellement liées que les opposer impliquerait qu'on les séparât pour le faire. Et il est le premier, ou en tout cas celui qui le plus éloquemment, je crois, revient sur cette fameuse distinction cartésienne, et donc l'idée qu'il n'est pas d'âme qui, bien conduite, ne puisse acquérir un pouvoir absolu sur ses actions. Pardon, c'est un peu long, mais c'est tellement important. Quand Descartes dit « il n'est pas d'âme qui, bien conduite, ne puisse acquérir un pouvoir absolu sur ses actions », ou sur ses passions même, d'ailleurs, qu'il le dit des deux. Quand c'est la reine Élisabeth qui lui demande comment faire, il le dit sur ses passions. Dans la correspondance avec Élisabeth, Descartes est confronté à une dame, la reine Élisabeth, qui est mélancolique. Et en fait, le seul conseil qu'il peut lui donner, on en a déjà parlé, Paola, le seul conseil qu'il peut lui donner, c'est « efforcez-vous, madame, exercez-vous, efforcez-vous, battez-vous. Vas-y, mon gars. Non, Jeff, t'es pas tout seul. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, faut des encouragements. La vie, comme dirait Romain Gary, ça demande des encouragements. » Mais c'est tout ce qu'il peut lui dire, il ne peut rien lui dire d'autre. Tous ces philosophes ont une ambition, c'est donner à ce qu'ils savent la force de gouverner ce qu'ils font. Seulement, si, pour y parvenir, vous présentez la volonté comme imposant sa tutelle, son arbitraire au corps, vous vous retrouvez dans la situation de celui qui voudrait arrêter de fumer et n'en fait qu'une question de volonté, et par conséquent n'y arrive pas. Ou alors, s'il y arrive, se vit pendant les 20 ans où il ne fume pas éternellement comme un fumeur repenti. Vous êtes dans la situation de celui qui, comme dit Ovide, voit le meilleur et l'approuve, et pourtant fait le mal, et se retrouve en guerre avec lui-même, en disant « mais enfin, comment est-ce que je peux voir le meilleur et l'approuver tout en faisant le mal ?» L'ambition de Spinoza est de donner à nos idées vraies la puissance de recouvrir nos imaginations. Or, pendant 4 livres de l'éthique, Spinoza montre à quel point ce que nous imaginons, ce que nous désirons, ce que nous subissons au fond, est plus fort que ce que nous savons. Comment faire en sorte que ce que nous savons l'emporte sur ce que nous subissons, c'est l'objet de la 5e partie de l'éthique. Mais c'est très important pour lui dans ce long processus, parce que c'est ça la libération. La libération, c'est de ne plus subir, c'est de comprendre au lieu de subir, c'est d'agir au lieu de pâtir.
France Culture, le gai savoir.
Raphaël Antoven.
Excusez-moi Raphaël, hein, mais ma tâche est un peu ingrate, mais il faut qu'on retourne à cet avant-propos de la troisième partie, où que nous essayons de...
Non, mais vous avez raison, je m'emballe un peu, mais...
Oui, mais et moi, c'est mon cahier des charges. Voilà. Il faut que j'avance dans... Enfin, qu'on avance dans cet avant-propos.
On reprend le texte.
Donc il croit en effet que l'homme trouble l'ordre de la nature plutôt qu'il ne le suit. Qu'il a sur ses propres actions un pouvoir absolu et ne tire que de lui-même sa détermination.
Ouais, bon. C'est le troisième terme qu'on étudie maintenant.
Oui, mais est-ce qu'on ne l'a pas déjà un peu expliqué lorsqu'on dit que tout n'est pas affaire de volonté ?
Les deux se tiennent, mais il y a une valeur ajoutée. C'est pas tout à fait la même chose de dire qu'un homme est absolument maître de ses actions et qu'il n'est déterminé que par lui-même. Parce que dans un cas, on dit quoi ? Que l'âme gouverne le corps. C'est ça qu'on dit quand on dit qu'un homme a le pouvoir absolu sur ses actions. Que l'âme gouverne le corps et que par conséquent, un homme ne peut pas voir le mal et faire le mal en même temps. S'il voit ce qu'est le mal, il ne peut pas faire le mal. Bon, ça c'est le deuxième terme de la phrase. Troisième terme, c'est « il n'est déterminé par ailleurs que par lui-même ». Ça, c'est une critique du libre-arbitre. Et, c'est la formule du libre-arbitre que Spinoza critique. Spinoza critique le libre-arbitre parce que, dans la perspective ouverte par Spinoza, et ça, c'est très important ici, vous voyez, c'est une valeur ajoutée. On est en lien, évidemment, avec ces deux positions, mais... La valeur ajoutée de Spinoza, c'est de montrer qu'il y a un lien entre le sentiment que l'homme trouble l'ordre de la nature plutôt qu'il ne le suit, que l'homme peut avoir un pouvoir absolu sur ses actions, troisièmement, que l'homme est l'origine radicale de ce qu'il décide ou de ce qu'il entreprend. Donc, un, le miracle comme dérogation à l'ordre naturel, deux, l'âme comme maîtresse du corps, trois, l'homme comme origine radicale de ses actions. Ce sont trois préjugés, trois faussetés qu'il faut déconstruire dans ce livre qui fait la géométrie des passions. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? La critique du libre-arbitre est très simple à comprendre. Le libre-arbitre, le sentiment que nous avons d'avoir un libre-arbitre, relève de l'ignorance des causes réelles qui nous font agir. Vous croyez que c'est... À l'échelle d'un fumeur, pour garder une métaphore familière, vous croyez que c'est librement que vous fumez, en réalité c'est parce que vous êtes en manque de nicotine que vous fumez. Donc c'est le manque de nicotine qui vous dicte l'envie de la cigarette que vous croyez ensuite prendre librement. Mais la cigarette est un mauvais exemple parce que chaque fumeur vit le fait de fumer comme un esclavage à moins de se mentir à mort à lui-même, c'est qu'à le dire. Mais il sait bien que c'est un esclavage, que c'est une servitude. Mais il y a d'autres cas où, par exemple, voter, c'est mon libre arbitre. Librement, je décide de voter à gauche. Alors, magnifique, voter à gauche. Pourquoi votez-vous à gauche ? Ah, parce que je suis pour le mariage pour tous. Ah bon ? Ah, d'accord, donc il y a une raison pour ça. Donc vous êtes déterminé à voter à gauche par la raison que vous avez choisie. Etc, etc. En d'autres termes, ce qui donne le sentiment du libre arbitre, est en réalité dicté par des causes. Le simple fait qu'on puisse expliquer un geste qu'on présente comme une initiative libre montre bien qu'il n'y a pas de libre arbitre, mais qu'il n'y a que des déterminations auxquelles nous sommes plus ou moins soumis. Et on peut même aller en amont de ces déterminations, en disant « c'est pas parce que je suis pour le mariage pour tous que je vote à gauche, c'est parce que je suis de gauche que j'aime le mariage pour tous, et qu'aimant le mariage pour tous, je vote à gauche ». Vous voyez ce que je veux dire ? Mais dans tous les cas de figure, on ne sort pas des déterminations. Et Spinoza enseigne qu'il y a plus de liberté dans le fait de critiquer notre libre arbitre, de montrer à quel point notre libre arbitre est déterminé, sous-tendu par bien d'autres choses, que dans le fait de se prendre pour l'origine radicale de ses actes. Personne n'est moins libre que celui qui croit qu'il est l'origine de ses actes. Celui-là, c'est le pantin, c'est de la chair à démagogue. Le type qui dit « moi, je fais ce que je veux », c'est le souverainiste, si vous voulez. En termes politiques aujourd'hui, c'est celui qui dit « moi, je suis pour... » Voilà, qui prend l'idée de fermer les frontières, par exemple, pour une position de grandeur ou une position de force ou une position de fermeté. Une telle position qui est l'incarnation, l'érection politique, si vous voulez, de la version que Spinoza propose du libre-arbitre, est une position qui... Si aujourd'hui la France fermait ses frontières, demain matin la France s'étiole, il y aurait 10 millions de chômeurs en France. Donc c'est une position, si vous voulez, dont les conséquences ou dont les méfaits sont masqués ou recouverts par la position apparemment flatteuse du type qui dit « il y en a marre, j'impose ma volonté contre l'ordre du monde, je démondialise tout seul, si vous voulez ». Voilà. C'est la version politique du libre-arbitre, au fond, que Spinoza critique. Spinoza dirait « ces gens-là combattent pour leur servitude, comme s'il s'agissait de leur liberté ou de leur salut ». Alors, cette déconstruction du libre-arbitre chez Spinoza est très 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 importante, parce que, au lieu d'être l'origine de nos actes comme de nos pensées, nous sommes conduits à vouloir ce que nous voulons, déterminés à désirer ce que nous désirons, et déterminés à croire que c'est librement, c'est-à-dire sans détermination, que nous désirons ce que nous désirons. Vous voyez ? Donc, il inverse complètement la proposition. Et ce faisant, il a donné le jour à l'inconscient, puisque l'inconscient, c'est ce lac obscur qui détermine nos volontés apparentes ou apparemment souveraines. Il a donné le jour à Marx. Il a donné le jour à l'idée que c'était pas la conscience qui déterminait la vie, mais la vie qui détermine la conscience, selon la phrase qu'on trouve, l'adage qu'on trouve dans l'idéologie allemande. Il a donné le jour au sentiment hegélien que la raison, ce qu'on appelait la ruse de la raison, avait besoin pour s'accomplir dans l'histoire de mobiliser en apparence son contraire. Donc Hegel dit « la raison mobilise la déraison ». La déraison croit s'opposer à la raison, mais en réalité la déraison est employée par la raison, mise à son service. Et ainsi de suite, Spinoza est à l'origine de tous ceux qui considèrent qu'il y a plus de liberté dans la reconnaissance de notre aliénation que dans le déni de cette aliénation, puisque nous sommes déterminés. Il y a plus de liberté dans le fait de se savoir déterminé que dans le fait de tourner le dos à ses déterminations en se disant « ah, moi je fais ce que je veux ». Et on retrouve ici une phrase dont j'aimerais, si nos auditeurs devaient retenir une seule phrase de tout ce qu'on raconte, j'aimerais que ce soit celle-là. C'est dans le traité politique. Spinoza dit ceci, et vraiment, il faudra qu'on mette cette phrase d'ailleurs en épigraphe du site le jour où cette émission sera diffusée. « J'ai pris grand soin de ne pas tourner en dérision les actions humaines, de ne pas les déplorer, de ne pas les maudire, mais de les comprendre. » Voilà, c'est d'une certaine façon la formule de la liberté selon Spinoza.
Et ça fait écho dans la préface de la troisième partie à un petit bout de texte que je peux lire peut-être.
Je vous en prie.
Qui est « Il cherche donc la cause de l'impuissance et de l'inconstance humaine, non dans la puissance commune de la nature, mais dans je ne sais quel vice de la nature humaine, et pour cette raison, pleure à son sujet, la raille, la méprise, ou le plus souvent la déteste. »
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, dans la traduction que j'ai, on n'a pas la même. Hein. « Ils attribuent la cause de l'impuissance et de l'inconstance de l'homme non pas à la puissance commune de la nature, mais à je ne sais quel vice de la nature humaine, si bien qu'ils en pleurent, en rient, la mésestiment, ou bien, si c'est le cas le plus courant, la maudissent. » Et il ajoute « Qui montre plus d'éloquence ou d'ingéniosité à dire du mal de l'impuissance de l'esprit humain est tenu pour divin. » Donc, voilà la situation. La situation est la suivante. Un individu, vous, moi, fait ce qu'il peut dans la vie, on fait comme on peut, est mu par des passions, déterminé à vouloir, à appéter, comme on dit, des choses. Nous sommes mus, déterminés, etc. Bon. Et notre liberté ne dépend pas du fait d'être plus ou moins déterminé, ou alors dans un second temps, mais notre liberté dépend du fait de se savoir plus ou moins déterminé. En d'autres termes, d'un point de vue cartésien, on dirait « plus vous êtes déterminé, moins vous êtes libre ». Du point de vue spinoziste, c'est « plus vous vous savez déterminé, plus vous êtes libre puisque vous êtes déterminé ». Donc, il y a plus de liberté dans la reconnaissance de ces déterminations que dans le refus de ces déterminations, le refus arrogant de ce qui nous détermine à vouloir comme on veut, à penser comme on pense, et en plus à penser qu'on est l'origine de nos pensées. Bon. Donc Spinoza se situe là, et ce faisant, il inaugure une tradition politique, ou il prolonge une tradition politique, qui est celle, vous savez, celle dont on parlait des conservateurs subversifs. Pascal, Arendt, Machiavel, Spinoza. Quand il s'agit de politique, que disent-ils ? Qu'enseigne-t-il ? Non pas la révolution, mais la connaissance des mécanismes qui président aux grandeurs d'établissement et aux cordes de l'imagination, comme dirait Pascal, sur lesquelles repose le pouvoir. Donc Pascal, qui considère par exemple qu'une injustice vaut mieux qu'un désordre, est un penseur conservateur. Mais c'est un penseur conservateur qui délivre à son lecteur la recette lui permettant de ne pas être dupe du pouvoir. Donc c'est un penseur conservateur qui montre que le pouvoir repose sur une illusion. Machiavel. Pour conserver le pouvoir, il faut imaginer les hommes ingrats, fourbes, dissimulateurs et méchants. Bon. Ce faisant, il enseigne à qui veut le lire, à qui veut bien le lire. Il enseigne à qui veut bien le lire. Alors il enseigne au prince l'art de conserver le pouvoir, mais il enseigne au peuple les méthodes que le prince emploie et la façon dont le prince leur ment pour conserver le pouvoir. Arendt, c'est pareil. Spinoza, c'est pareil. Ce ne sont pas des penseurs révolutionnaires par leurs propositions, mais ce sont des penseurs dont la lecture est révolutionnaire parce que ce qu'ils transmettent, encore une fois, c'est la connaissance des mécanismes qu'on subit à la seconde où on ne les connaît pas et à la seconde où on les ignore. Or, la meilleure façon d'ignorer les mécanismes qui nous déterminent, c'est de se prendre pour l'origine de ces actes. en politique, si vous voulez, ça prend cette forme-là. Ontologiquement, c'est-à-dire en termes de discours sur l'être. Spinoza pointe une sorte de lien endogène entre ces trois préjugés. Un, l'homme comme électron libre. Deux, l'homme comme tout-puissant sur ses propres actions. Trois, l'homme comme doté d'un libre arbitre. Le résultat de ça, c'est que si on tient l'homme pour un électron libre, pour perturbateur, disposant d'un libre arbitre, etc., si on se fait cette idée-là de l'homme, qu'est-ce qu'on fait quand un homme manque de constance, par exemple, ou quand il se conduit mal? Comment on comprend ça? Comment on explique ça? Comment on explique? On dit, il est méchant. C'est ça qui est le paradoxe. On dit souvent qu'un discours du libre arbitre est un discours de la responsabilité. Qu'en gros, un homme peut être tenu pour responsable de ses actes si on considère qu'il est l'origine de ses actes. Et c'est vrai qu'à l'échelle d'une société, c'est important, ça. C'est important. On peut pas être spinoziste en termes collectifs. On peut pas être spinoziste à l'échelle d'une société. C'est-à-dire, on peut pas penser à l'échelle d'une société indépendamment des passions tristes que sont l'espoir ou la crainte. On peut pas être... on a besoin de penser à l'échelle d'une société que vous et moi avons notre libre arbitre en partage. Et c'est important de se considérer comme ayant un libre arbitre, que le citoyen que vous et moi sommes, dispose d'un libre arbitre. Mais quand on creuse un peu, on s'aperçoit qu'il n'en est rien. Mais on dit que le libre arbitre, c'est une façon de tenir les hommes pour responsables de leurs actes. Mais c'est exactement le contraire. Parce que qu'est-ce qui se passe là? Un homme qui se prend pour l'origine de ses actes et qui soudain se dit « là, je vais faire quelque chose de mauvais pour moi », il ne le veut pas, ça. Alors pourquoi il le fait? Comment il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire dans ces cas-là? C'est le moment où il va dire
« Pas ma faute. »
C'est pas ma faute. C'est plus fort que moi. J'y peux rien. Souvenez quand Valmont quitte la présidente de Tourvel. Il lui dit « C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. »
C'est cette femme qui est en cause.
Oh oui, je vous ai trompé avec elle, certes, mais Émilie n'est pas la seule. Ce n'est pas ma faute.
Pourquoi faites-vous cela?
C'est qu'il n'y a pas que Émilie, il y a une autre femme. Une femme que j'adore. Et j'ai bien peur que sur ces instances, je doive vous abandonner. Ce n'est pas ma faute.
Menteur ! Menteur !
C'est très vrai, je suis un menteur. Et c'est à l'instar de votre fidélité une évidence qui est pareillement réelle et indigeste. Et ce n'est pas ma faute.
Arrêtez de répéter cela !
Navré, ce n'est pas ma faute. Voyons, pourquoi ne chercheriez-vous pas un autre amant ? Quoi qu'il en soit, ce n'est pas ma faute.
Vous voulez que je meure?
Écoutez-moi. J'ai éprouvé beaucoup de plaisir. Mais il n'est pas question pour moi que je diffère la joie de cette rupture. C'est la loi de la nature. Ce n'est donc pas ma faute.
C'est très intéressant, le « c'est pas de ma faute ». Le libre arbitre, c'est ce truc qui certes, à l'échelle d'une société, vous permet d'être tenu pour responsable de vos actes, mais qui, à l'échelle intime, quand vous vivez comme ayant un libre arbitre et que vous faites, malgré vous, quelque chose qui ne vous convient pas, vous met en situation de dire « Ah, c'était plus fort que moi !» Et là où Spinoza est génial, c'est que il fait même... Quand on lit Spinoza, quand on pousse un peu cette lecture, on peut faire même la genèse de la Providence par le libre arbitre. Souvent, et dans les pièces de Racine, et on en a déjà parlé, on oppose la Providence... Phèdre, souvenez Phèdre, on en a parlé de Phèdre. Hein. Phèdre, la méchante Vénus et ses feux redoutables qui vient s'imposer à Phèdre, au libre arbitre. Genre, ok, tu veux m'écraser, tu es un dieu, mais moi j'ai mon libre arbitre et je vais peut-être perdre la bataille, mais enfin je te dis merde au moins un instant. Donc je perdrai, mais avec le panache. On oppose les deux en général et on dit souvent que le destin est plus fort que le libre arbitre, ce qui fait des héros des personnages tragiques. Mais ce qu'on oublie de voir et ce que Spinoza permet de penser, c'est qu'il n'y aurait pas de providence s'il n'y avait pas de libre arbitre. Qu'est-ce que c'est que la providence? Ça n'est que le libre arbitre exporté à l'échelle du monde. C'est l'idée même de libre arbitre qui produit le sentiment d'un destin qui est plus fort que le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est un squelette de volonté qui se donne un ennemi plus fort que lui pour pouvoir au moins perdre avec les honneurs. On n'est pas du tout dans la liberté. On est dans une servitude renouvelée. Et c'est ce que Spinoza enseigne. Et c'est là qu'il est, à mon avis, très très fort. Nos comportements sont versatiles. Nos vœux sont pieux. Nos bonnes volontés ou nos bonnes résolutions ne dépassent rarement le 2 janvier. D'accord? Bon. Tout ça, c'est l'effet d'un jeu de force, dont chaque individu, chaque conscience est en un sens le théâtre. Mais, comme on ne se vit pas de cette façon-là, Comme on se vit comme une entité close, individuelle, autonome et dépositaire d'un libre arbitre, on en vient à tenir tout cela pour la marque d'un vice, par exemple. Donc on déplore au lieu de comprendre, alors qu'il faudrait comprendre au lieu de déplorer. On combat au lieu de comprendre, alors que la meilleure façon de combattre quelque chose, c'est de le comprendre, justement. Et c'est la grande leçon de Spinoza, on ne combat bien que ce qu'on peut comprendre. On ne combat pas ce contre quoi on jette l'anathème. La meilleure preuve en est que le Front National, par exemple, en France, depuis son apparition aux Européennes en 1984, quand Jean-Marie Le Pen a fait plus de 10%, le Front National a, pendant plus de 20 ans en France, fait l'objet de gémonies, d'imprécations morales. Racisme, fascisme, antisémitisme, nazisme, etc. etc. Il n'y avait pas assez de « isme » pour qualifier le discours, il est vrai, fétide, du Front National. Bon. Mais le taux d'imprécation qu'il y avait dans ce discours rendait ces discours totalement inefficaces, à la façon dont la morale, qui se contente de déplorer le monde comme il est impuissante à le corriger. La meilleure façon de lutter contre le Front National, c'est de sortir de la crise, c'est d'augmenter le pouvoir d'achat, c'est d'enseigner que l'altérité est un enrichissement et non une menace. Enfin, il y a d'autres méthodes qui nous affranchissent, qui nous débarrassent de l'imprécation morale ou moralisatrice. La morale a amené Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de la présidentielle et peut-être sa fille dans 2 ans au même endroit. La morale est ce sur quoi prospère celui qui fait l'objet des anathèmes de la morale. Le terreau de l'ennemi de toute morale, c'est la morale, justement. Or, Spinoza est celui qui dit « arrêtez de faire la morale au monde et aux choses. Comprenez les mécanismes qui président à leur émergence. Reconnaître quelque chose, dit-il dans sa singularité, ça n'est jamais l'extraire du monde. Ça n'est jamais l'extraire, c'est au contraire l'intégrer dans la série des causes. Comprendre quelque chose dans sa singularité, c'est l'intégrer dans un ensemble causal, dans une série causale. C'est de cette manière-là qu'on repère la singularité de quelque chose et qu'éventuellement on se donne une prise. À la façon dont, et j'en reviens au texte du livre, de la troisième partie de l'éthique, à la façon dont un individu a une prise sur ses passions, non par Pancras de la volonté et de la passion, mais on se donne une prise sur nos passions, non pas en leur imposant les diktats abstraits de la volonté, ou les diktats vertueux de la morale, ou les anathèmes vertueux de la morale. Non, on se donne une prise sur nos passions en comprenant leurs mécanismes, en comprenant leur enchaînement, leur concaténation. C'est la seule façon que nous avons d'acquérir une sorte de pouvoir sur nos passions. Le pouvoir sur les passions commence à l'instant où l'on renonce à exercer une sorte de dictature martiale ou militaire, un régime d'exception, pour guérir de nos turpitudes.
France Culture, le gai savoir.
Raphaël Antoven.
Puisque vous m'en donnez l'occasion, Raphaël, j'ai trouvé une méthode radicale pour qu'on arrive au bout de cette préface, enfin de la, donc je rappelle encore une fois, de la troisième partie d'éthique. Oui. Georges va le lire jusqu'au bout, hein, et comme ça les auditeurs pourront voir que Spinoza ne s'exprime pas dans un langage occulte et...
Alors, Spinoza, il faut bien dire à nos auditeurs, vous avez raison, Paola, de rappeler ça.
En tout cas, dans les préfaces.
Oui, il, est pas, il, voilà, il n'est pas toujours imbitable. Il n'est pas toujours incompréhensible. Amis auditeurs, alors, il y a des passages de Spinoza, vraiment, il faut avoir Bac plus 8 en philosophie pour y entrer. Voilà. Mais il y a aussi des textes qu'on peut lire tranquillement. Je crois qu'on peut comprendre si on ouvre grand les oreilles, sans qu'on ait besoin pour cela d'une technicité particulière. Il suffit d'avoir un lecteur comme Georges Clès. Écoutez.
Il n'a cependant pas manqué d'hommes très éminents, et nous avons de voir beaucoup à leur travail et leur activité, pour écrire bien des choses remarquables sur la façon correcte de vivre et donner aux mortels des conseils pleins de sagesse. Mais quant à la nature des affects et à leur force, ce que peut l'esprit, en revanche, pour les maîtriser, nul que je sache ne l'a déterminé. Je sais, bien entendu, que le très célèbre Descartes, encore qu'il ait cru lui aussi que l'esprit avait sur ses actions une absolue puissance, s'est pourtant appliqué à expliquer les affects humains par leur première cause et à montrer en même temps par quelle voie l'esprit peut avoir sur les affects un empire absolu. Mais, à mon avis, du moins, il n'a rien montré d'autre que la pénétration de son grand esprit, comme je le démontrerai en son lieu. Car je veux revenir à ceux qui préfèrent maudire les affects et actions des hommes ou en rire plutôt que les comprendre. Ceux-là, sans aucun doute, trouveront étonnant que j'entreprenne de traiter les vices et inepties des hommes à la façon géométrique. et que je veuille démontrer de façon certaine ce qu'il ne cesse de proclamer contraire à la raison, vain, absurde et horrible. Mais voici ma raison. Rien ne se fait dans la nature que l'on puisse attribuer à un vice de celle-ci. Car la nature est toujours la même, et a partout une seule et même vertu et puissance d'agir. C'est-à-dire les lois et règles de la nature selon lesquelles tout se fait et passe d'une forme dans une autre sont partout et toujours les mêmes. Et par suite, il ne doit y avoir également qu'une seule et même façon de comprendre la nature des choses, quelles qu'elles soient, à savoir par les lois et règles universelles de la nature. Et donc les affects de haine, de colère, d'envie, etc., considérés en soi, suivent les uns des autres par la même nécessité et vertu de la nature que les autres singuliers. Et partant, ils reconnaissent des causes précises par lesquelles ils se comprennent et ont des propriétés précises, aussi dignes de notre connaissance que les propriétés de n'importe quelle autre chose qui nous charme par sa seule contemplation. Je traiterai donc de la nature des affects et de leur force et de la puissance de l'esprit sur eux, suivant la même méthode que j'ai utilisée dans ce qui précède à propos de Dieu et de l'esprit. Et je considérerai les actions et appétits humains comme s'il était question de lignes, de plans ou de corps.
Bon, en quelque sorte, dans cet extrait, Spinoza déconseille au lecteur qui viendrait chercher dans l'éthique des bons conseils, une façon de mener une vie droite, de lire l'éthique. En fait, il y a d'autres livres, aller chercher ailleurs, ça a déjà été fait, c'est pas moi qui vais le faire.
Non, il ne déconseille pas de lire l'éthique. Il y a des moments dans l'éthique où Spinoza dit « j'oblige personne à me suivre », à partir de là, ça va aller un peu vite, ceux qui veulent peuvent s'arrêter là. Par exemple, dans la cinquième partie, à partir de la
guide
proposition...
Guide de haute montagne, quoi.
Oui, à partir de la proposition 11, si vous voulez, il franchit le sommet des 4000, d'accord ? Donc on est en très haute montagne, on est sur un glacier, il n'y a que du blanc autour de soi, l'oxygène est rare, donc il faut vraiment avoir une bonne condition physique et intellectuelle pour suivre, à ce moment-là, le guide de très haute montagne que devient Spinoza dans la cinquième partie de l'éthique, où ça... Enfin, on peut prendre la métaphore qu'on veut, soit ça va très haut, soit ça va très vite, mais dans les deux cas... Il faut être vraiment entraîné pour le suivre. Et Spinoza le dit, écoutez, vous pouvez vous arrêter là, si vous voulez. Et en fait, il le dit à plusieurs reprises. Dans le livre 2 aussi, il dit parfois, juste avant de décrire le corps humain, les limites que constitue le corps humain, en quoi le corps humain est un mode fini ou une manière singulière d'exister, etc. Juste avant de dire ça, il dit, certains lecteurs trouveront que ce que je dis là n'est pas tout à fait compréhensible. Je leur demande d'avoir un peu de patience, d'attendre un peu et de me suivre s'ils veulent. Il y a une forme de civilité chez Spinoza qui dit « je ne vous oblige pas à me suivre ». Et à quoi correspond cette civilité? Elle correspond au sentiment chez Spinoza qu'au fond, il n'y a pas besoin de lire l'éthique pour être vertueux. De la même manière, souvenez-vous de la République, du livre 10 de la République, Paola, à qui je pense dans la République, dans le livre 10?
Au mythe d'Ère le Pamphylien,
oui.
À celui qui choisit une vie par habitude plutôt que par... Par vertu.
Exactement. Dans le mythe d'Ère le Pamphylien, on en a déjà parlé, l'un des personnages a conduit à mener une existence tout à fait décente. Mais il n'a conduit cette existence que par habitude. Il ne l'a pas conduite de façon réfléchie, pas par réflexion. Et c'est donc la même âme qui, sommée de choisir un nouveau corps, se choisit le destin d'un tyran qui mange ses enfants. Parce qu'elle ne fait pas gaffe, parce qu'elle n'a pas assez réfléchi du temps de son incarnation dans un autre corps. Et donc, les décisions que l'on prend de façon irréfléchie sont, aux yeux de Platon, extrêmement dangereuses, puisque l'irréflexion peut nous conduire à mener une vie banale et sympathique et sans casser trois pattes à un canard par habitude, de la même façon que l'irréflexion peut nous faire élire le destin le plus tragique en croyant qu'on a choisi le meilleur. Bon, Spinoza est moins dur avec les gens qui se tiennent bien par habitude, au fond. On ne trouve dans l'éthique aucun décalogue. L'éthique n'est pas un livre normatif. Spinoza ne dit pas « tu dois, tu peux ». Enfin, il dit « tu peux », mais il ne dit pas « tu dois ». Il ne dit jamais « tu dois faire ça ». Cette idée-là n'a pas de sens pour lui. Ce n'est pas normatif. L'éthique n'est pas, ne dit pas ce qu'il faut faire. L'éthique dit comment les choses fonctionnent et la meilleure façon pour un individu de s'intégrer à cet ensemble dont il fait partie et qu'il doit pourtant rencontrer.
D'où le titre peut-être du livre de Deleuze sur Spinoza, Philosophie pratique.
Mais exactement, Spinoza, Philosophie pratique. Admirable petit livre aux éditions de Minuit de Deleuze, dans lequel effectivement Deleuze, revenant notamment sur le livre 2 de l'éthique et la question des notions communes, montre qu'à quel point Spinoza n'est pas... C'est pas un décalogue, Spinoza, hein. Il vous dit pas ce qu'il faut faire. Mais en revanche, l'ambition de Spinoza, c'est d'inviter tout un chacun, par un travail réflexif, à en venir lui-même, à, sans la médiation d'aucun décalogue, justement, d'aucune Bible, d'aucune injonction morale, à en venir soi-même à se conduire convenablement, correctement, dans le bon sens, c'est-à-dire à rechercher ce qui est bon pour soi, et par là même pour les autres, parce qu'au fond, pour Spinoza, c'est la même chose. L'enjeu de l'éthique, l'ambition de l'éthique, c'est de transformer quelqu'un qui se conduit bien par hasard en quelqu'un qui se conduit bien nécessairement, en quelqu'un qui se conduit bien par raison, et non plus par hasard. Donc, c'est d'opérer cette bascule, en quoi il est absolument philosophe, puisque la philosophie, c'est de transformer ce qu'on sait en un savoir de lui-même. Vous savez que vous allez mourir, mais vous n'y croyez pas. L'exercice de la philosophie vous donne chair et consistance à ce savoir qui, jusque-là, était pour vous commodément abstrait. Donc, l'ambition de l'éthique, c'est de transformer ce savoir accidentel en savoir consistant. Mais en même temps, il dit, écoutez, si la Bible vous suffit, contentez-vous de la Bible, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, lui-même, dans le traité théologico-politique, analyse abondamment la Bible, dont il fait uniquement un recueil de métaphores. Mais après tout, pourquoi pas? Et il dit, c'est pas grave d'y parvenir par d'autres voies que la raison. Il ménage cette possibilité-là. Alors bien sûr, ça n'est pas à ça qu'il pense quand il dit à la fin de l'éthique « les belles réussites sont difficiles autant que rares ». Mais en même temps, il fait droit à ça. Et on trouve ici, chez Spinoza, une autre dimension de lui qu'on a assez peu abordée ici, qui est la dimension politique. Politiquement, Spinoza, de la même façon que lire l'éthique, c'est vivre ou apprendre à vivre séparément de l'espoir ou de la crainte, de la carotte ou du bâton, s'éprouver comme citoyen d'une communauté, donc membre d'une multitude, appartenant à une foule, mu donc par des passions collectives, s'éprouver comme citoyen impose de vivre sous le régime de l'espoir et du châtiment. On a besoin, à l'échelle publique, à l'échelle collective, de l'espoir et du châtiment, de la même manière qu'une société a besoin de tenir les individus pour responsables de leurs actes et donc, paradoxalement, dépositaires d'un libre arbitre. Donc, il y a deux dimensions de Spinoza. Il y a l'expérience que vous pouvez faire en vous-même, en lisant l'éthique, en vous plongeant dans l'éthique, ce qu'on peut apprendre et à quel point c'est libératoire pour soi. Mais l'espèce de liberté que l'éthique permet est une liberté intransitive, à la limite un lecteur de l'éthique qui passe inaperçu, si vous voulez. C'est pas un révolutionnaire, c'est pas un chef de camp, c'est pas un chef d'armée, c'est pas Coriolan, le lecteur de l'éthique. En revanche, à l'échelle politique, on n'a pas tellement besoin de l'éthique. On a plutôt besoin de l'espoir, on a besoin de gérer la multitude. Alors l'éthique permet de comprendre pourquoi c'est nécessaire, mais il y a vraiment deux registres. Donc Spinoza dit, il y a des tas de gens qui ont écrit maintes choses remarquables sur la droite façon de vivre, et qui ont donné aux mortels des conseils pleins de prudence. Mais, dit-il, je veux revenir à ceux qui aiment mieux maudire les affects et actions des hommes ou en rire, plutôt que de les comprendre. Il dit, certes, moi je ne juge pas, si vous voulez, c'est la grande différence entre Spinoza et ses adversaires. Spinoza dit, moi je ne juge pas celui qui se satisfait de la Bible ou d'un décalogue normatif pour gouverner ses actions. Je ne me formalise pas du fait que certains préfèrent recevoir de l'extérieur de façon arbitraire l'injonction, le commandement de bien faire et avec un contenu à ce commandement, plutôt que faire le travail herculéen ou prométhéen qui consiste à reconstituer en soi cette injonction qu'on se donnerait à soi-même. Ce qui l'embête, c'est celui qui va juger les actions des hommes au lieu de les comprendre. C'est-à-dire celui qui, quand il est question d'évaluer le comportement de quelqu'un, se contentera de dire « il s'est mal conduit, donc c'est un salaud », à la façon dont le procureur condamne Meursault à mort en disant « je l'accuse d'avoir enterré sa mère avec un cœur de criminel », dans L'Étranger de Camus, hein. C'est ça qui emporte le morceau, c'est pour ça qu'il est condamné à mort. Spinoza s'en prend à celui qui se satisfait d'un jugement en guise de compréhension. Il n'en veut pas à celui qui se satisfait des injonctions qu'il reçoit de l'extérieur et qui, de cette façon, se conduit proprement. Mais il en veut, ou il s'en prend, et il déconstruit la position de celui qui décide que si quelqu'un a mal agi, c'est qu'il est méchant et qu'il est intégralement coupable du crime qu'il a commis. C'est là que Spinoza intervient, au fond, et qu'il se fait actif. Alors comment fait-il? très rapidement, parce qu'on arrive au terme de l'émission. Rien ne se fait, dit-il, dans la nature que l'on puisse attribuer à un vice de la nature. La nature est toujours la même et a partout une seule et même vertu et puissance d'agir. Les lois sont toujours les mêmes. En d'autres termes, il n'y a pas d'exception dans la trame naturelle. Il n'y a aucune exception dans la trame naturelle. Ça veut dire que tous les comportements peuvent faire l'objet de cette lecture, entre guillemets, déterministe, qui consiste à interpréter un comportement selon ses causes, plus que selon ses effets. Derrière ça, il y a aussi l'idée que faut pas être hypnotisé par ce qu'on voit. Parce que quand on est fasciné par ce qu'on a sous les yeux, quand on est obsédé par ce qu'on a sous les yeux, quand un crime, par exemple, est tellement affreux qu'on ne voit que lui, on en oublie les circonstances qui ont présidé. Alors, il ne s'agit pas d'innocenter la personne, il est important de tenir le criminel pour coupable à l'échelle d'une société, sinon une société s'effondre. Mais ça n'est pas là parler en vérité. Car parler en vérité, c'est réintégrer un geste criminel à l'intérieur de la série des causes qui le précèdent. De la même façon, Spinoza est quelqu'un qui rendrait sensible ou attentif au fait qu'une déclaration d'un homme politique, une déclaration scandaleuse d'un homme politique, une déclaration, vous savez, Brice Hortefeux a été condamné pour racisme, par exemple. Quand il a dit, il parlait des Arabes, il a dit, c'est quand il y en a plusieurs qu'il y a un problème, il avait dit ça à une université d'été de l'UMP. Bon, c'était pas brillant. Et c'était d'autant moins brillant que pour s'en défendre, il avait dit, mais je parlais pas des Arabes, je parlais des Auvergnats, comme si c'était moins grave. Seulement, l'effet d'hypnose produit par ces déclarations était tel qu'on en oubliait la duplicité des moyens mis en œuvre pour capter ces déclarations. Il y a fort à penser, demande à voir, mais il y a fort à penser que cet homme ne se savait pas filmer à l'instant où il a dit ça. De la même manière, si vous sortez une blague raciste ou misogyne ou je sais pas quoi, un jour à table, Paola, parce que vous êtes au milieu de bons amis, que vous avez bu un verre de trop, et que vous êtes pour votre, à votre insu filmé ou enregistré, on vous reprochera des paroles dont vous pourrez dire à bon droit qu'en un sens elles ne sont pas les vôtres, qu'elles ont été dictées par les circonstances, par le lieu, par la bonne humeur, par la désinvolture, etc., etc. Et Spinoza est aussi celui qui vous apprend à ne pas être dupe de ce qu'on a envie de voir, au fond. Parce que quand on prélève une parole comme ça, c'est qu'on a envie d'entendre ça. On a envie, voilà, ce sont des choses qu'on a envie de voir. Et en fait, ce qu'on croit voir, c'est ce qu'on a envie de voir. Et Spinoza est celui qui montre que, au lieu de voir ce qu'on a envie de voir, apprenons à comprendre au lieu de juger. Merci Paola, merci à tous. François Connac à la réalisation, Georges Clès à la lecture évidemment et Jean-Michel Coqui à la technique aujourd'hui. On aurait pu rester une année au moins sur ce texte fou. Ce texte fou est tellement raisonnable qui introduit la troisième partie de l'éthique de Spinoza. Je vous en recommande la lecture, encore une fois, chers auditeurs, car il fait partie de ces textes de Spinoza que vous pouvez lire sans crainte, sans difficulté. Il y a comme ça l'appendice de la première partie de l'éthique, l'avant-propos de la troisième partie, ou bien l'avant-propos de la cinquième partie dont nous vous avons parlé aujourd'hui. Bref, le débat Spinoza-Descartes. Plongez-vous dans ces questions, plongez-vous dans ce débat, vous y retrouverez l'écho des questions qu'il est impossible de ne pas se poser à soi-même. Nous continuerons dimanche prochain dans Le Gai Savoir, notre voyage au bout de la nuit. On avait laissé les auditeurs en Afrique la dernière fois. C'est à New York que nous les retrouverons. L'arrivée de Bardamu à New York, c'est au programme du Gai Savoir dimanche prochain. Dans l'intervalle, si la philosophie vous manque, écoutez Les Nouveaux Chemins de la Connaissance qui, cette semaine, tous les jours, de 10h à 11h, vous parleront de philosophie africaine sous la houlette, évidemment, d'Adèle Van Rett. Et puis, je vous en parlais la semaine dernière, je le redis cette semaine, lisez et fréquentez Philosophie Magazine, qui parle d'Aristote et du courage, qui parle de mémoire et d'amitié, qui parle de deuil dans le numéro de ce mois-ci, Philosophie Magazine, qui, tous les mois, gagne du public par le haut.
17h sur France Culture. Dans un instant, l'atelier du pouvoir.